Radio Bonheur, 19h09, les déchaînés du football, c'est en direct sur Radio Bonheur. Les déchaînés du football avec ce soir Pierre-Henri Dufay, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, quel week-end pour l'en avant de Guingamp. Guingamp qui n'y croyait plus et qui, dans les arrêts de jeu, c'était pas arrivé, je crois, depuis très très longtemps en Ligue 1. Je crois que ça datait de 2011, un pareil exploit. Guingamp réussit à revenir avec deux buts d'écart alors qu'on avait passé les 90 minutes.
Alors, on pensait effectivement que le but du 2-1 était dans le temps additionnel. Il ne l'est pas, mais c'est 90e minute. Il a été inscrit à 89 minutes et 55 secondes. Et effectivement, c'est du jamais vu depuis 2011 en Ligue 1. C'était un Nice-Lyon où Nice était mené 2-0 à la 90e et avait réussi à remonter à deux buts partout. Et vous m'offrez une belle perche, Dominique, parce que ça sera l'objet de notre semaine sur la rubrique. On va s'intéresser aux remontées incroyables de Guingamp dans des dernières minutes de match. On va vous raconter tout ça tout au long de cette semaine. Ça commencera mardi par le fameux Guingamp-Lyon de 2003 où il y avait 3-1 pour Lyon à la 89e minute. Guingamp avait marqué avec Bardon et Drogba ensuite avait marqué le but du 3 partout. C'est très rare et c'est un peu miraculeux quand même ce qui s'est passé du côté de Guingamp samedi pour ce match contre Lille. On va dire heureusement que c'était Lille. C'est peut-être parce que c'était Lille et parce que c'était un Guingamp aussi qui lâche rarement, qui lâche jamais dans ses fins de match, que ça s'est passé comme ça. Est-ce que Sébastien est avec nous en studio ?
Ah non, pas de Sébastien ce soir.
Ah dommage,
oui,
parce que
il aurait dû venir mais il n'était pas là.
D'accord, parce que j'ai mis les musiques exprès pour lui, parce que on a fait un petit montage hier en rapport avec la série La Casa de Papel, qui raconte un braquage en Espagne, et on l'a illustré avec Jimmy Briand, et on a mis justement deux chansons fortes de cette série espagnole, parce que c'est un peu un braquage que Guingamp a fait le samedi à Lille. On écoute tout de suite les buts de ce Lille-Guingamp. Au duel avec Malcuy, mais Malcuy met le pied. Edgarier pour Bissouma, superbe retour de Menezé. Dido qui tape dans le tas, ça profite à qui ce ballon? Oh là là, il y a un carambolage là au milieu du terrain, c'est pas fini. Benzia, petit ballon pour Pepe en bonne position. Brat et qui marque! Ah, le geste de classe de Nicolas Pepe, on le connaît avec son pied gauche. Il faut pas lui laisser ces situations là, on lui l'a laissé trop d'espace après un, on disait un carambolage, il y a eu un gros cafouillage, ils ont ressorti le ballon un peu par miracle. Et après, il y a eu le talent de Benzia qui lui a mis le ballon. Pepe qui a mystifié Carbrat avec son pied gauche. Il a ajusté Johnson. Attention, attention, Pepe qui donne par-dessus. Il n'y a pas de hors-jeu. Balle de 2-0 pour Araujo qui marque le deuxième. 2-0 pour Lille. J'ai cru qu'il y avait hors-jeu. Tous les Guingampais se sont arrêtés. Et Lille qui marque un deuxième but. Voilà, on attendait la réponse du côté de Guingamp. Est-ce que les Guingampais allaient réussir enfin à garder ce niveau d'exigence, à garder cette envie-là, cet enthousiasme-là? Et apparemment non. Alors, 3 minutes de temps additionnel, Dominique, ou pas ? À 4 ! 4 minutes de plaisir immense supplémentaire. Allez, Grenier qui tricote et qui donne sur Ikoko. Ikoko devant le but pour Briand. But ! But contre son camp de Junior Alonso. Et bien, finalement, ces 4 minutes de temps additionnel, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Ça nous laisse le temps d'espérer quelque chose. Pour Blas, allez, faut donner des appels en profondeur. La Blas pour Thuram sur le côté. Thuram qui est devant Malcuit. Thuram qui perce. Thuram, corner. Corner pour Guingamp. Calé parade. Monte. Et pourquoi il monte pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'on perde 2-1 ou 3-1? C'est strictement la même chose. Faut monter, allez, dernier frisson, ils sont en train de serrer les fesses du côté de Lille. Clément Grenier pour frapper peut-être le dernier corner de ce match devant le but, tête de Benzia. C'est pas fini, Piri qui récupère, Piri à 20 mètres, Piri qui va frapper. Oh, Briand qui récupère l'action, l'égalisation de Jimmy Briand. Mais comment on a réussi à revenir dans cette fin de match du côté de Guingamp? C'est un miracle, on a frappé que 3 fois dans ce match. Et dans le temps additionnel, Guingamp qui vient marquer 2 buts à Lille, C'est une catastrophe pour Lille et c'est un but tombé du ciel pour Jimmy Briand et les Guingampais sur ce coup. Jouer ce corner renvoyé sur Piri. Piri, la frappe a été contrée, c'est revenu sur Briand qui était face au but. Il a contrôlé, il s'est mis dans le sens du but et il a marqué dans le petit filet opposé. Miracle! Miracle!
Miracle!
Miracle!
Au stade Pierre Mauroy ce soir, on n'y croyait plus. Eh ouais, on n'y croyait plus et pourtant il fallait y croire.
Hein les joueurs y ont cru, c'est ce que Comboiré nous a dit après le match. Les joueurs y ont cru, ils étaient peut-être les seuls à y croire. Honnêtement, vous m'aviez posé la question pendant le match Dominique Autour de la 70e. Je vous avais répondu que si Guingamp marquait, voilà, avant 80e, peut-être que oui, ça allait être possible. Mais honnêtement, non. Si vous m'aviez dit ça au début du temps additionnel, là, quand on a rigolé des 3-4 minutes de temps additionnel.
Oui,
non.
En plus, ouais, on se moquait
c'était
du temps additionnel.
Ouais. Ah ouais, c'était impensable. Mais voilà, il y a eu une conjonction de circonstances. Avec un serial sauveur, Jimmy Briand, on a regardé un petit peu les statistiques des buts inscrits dans le temps additionnel cette saison en Ligue 1. Guingamp est l'équipe qui inscrit le plus de buts au-delà du temps réglementaire. 5, juste devant 3 et Lyon, 4. Et derrière, on trouve une série d'équipes avec Marseille, avec Paris notamment. 3 buts dans le temps additionnel, c'est autant que Jimmy Briand. Parce que 3 des 5 buts dans le temps additionnel pour Guingamp ont été inscrits par Jimmy Briand qui... nous raconte un petit peu la lucidité dont il fait preuve si souvent, lui qui se dépense tellement. Pourtant, dans les derniers instants, il a souvent le geste juste. On l'écoute.
Les beaux, je crois qu'il tente une frappe et le ballon revient sur moi. Donc j'essaie de la contrôler et derrière de m'appliquer à la cadrer. Comme je vous dis, moi j'ai l'habitude de me battre jusqu'à la dernière seconde et quand il reste du temps, et ben on essaie d'être toujours lucide. Alors c'est pas souvent simple avec les nombreux efforts, mais eh ben quand ça sourit, on est content parce que on est récompensé de ne pas avoir lâché.
Mmh. Oui, c'est pas
l'homme du match dernière, en tout cas, l'homme de la fin du match, c'est sûr.
Oui, parce que c'était compliqué ce match du côté de Guingamp. Il y avait un grand coup à faire, il y avait 3 points à gagner pour la situation au classement que on en parlera dans quelques instants. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que du côté des joueurs, même de l'entraîneur de Guingamp et même de nous, de notre côté, on a senti aussi chez certains supporters, il y a eu de la déception après ce match parce que c'était tellement fragile en face que Guingamp aurait peut-être dû se bouger plus tôt dans cette rencontre, ouvrir le score. Ils l'ont eu, l'opportunité avec Briand, parce que voilà, il y avait le feu à Lille, ça s'est vu à la fin du match. Et écoutez Jimmy Briand qui nous raconte cette ambiance paradoxale dans le vestiaire.
Non, il y avait déjà de la déception parce qu'on a produit un match très très quelconque et on était déçus pour ça. Et puis après, voilà, plus le temps passait, on se disait, ben un point c'est toujours ça.
Voilà, c'est ça, c'est un point. On disait que c'était un point comme une victoire au final du côté de Guingamp, en tout cas dans l'émotion, parce que ça reste un point aussi pour Lille. Mais voilà, dans le scénario, c'est quand même un point qu'on n'attendait plus du côté de Guingamp. Mais ce que l'on a entendu après le match en zone mixte à Lille, c'est... alors, on retenait bien sûr cette égalisation à la fin, ce scénario de fou, mais les acteurs sont revenus notamment sur ce match très décevant des Guingampais. Et le premier d'entre eux, c'est l'entraîneur Antoine Comboiré.
Pendant une heure et demie, 90 minutes, il y a eu une occasion, celle de Jimmy Briand. Voilà. Et sinon, beaucoup de déchets, un problème de... peut-être aussi donc de concentration et puis de détermination dans les passes, dans les contrôles. On l'a vu plusieurs fois en premier mi-temps, Jordan il s'est retrouvé plusieurs fois sur le côté. Voilà, il n'y a pas l'envie de faire mal. Marcus Coco, il y a des situations où de 1 contre 1 on doit faire mal. Nico moins bien, même Jimmy et tout le monde. C'était donc un match un peu emprunté. Après, moi j'adore parce que dans Colin, mes joueurs, ils montrent qu'ils ont du caractère. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient lâché, beaucoup d'équipes qui auraient perdu le match et aujourd'hui, ils ont été énormes parce que là où on va dire c'est fini, c'est très très rare.
Ah oui, ça c'est sûr, c'est rare. C'est ce qu'on disait en entrée de l'émission. Ouais. Être mené 2-0 à la 90e ou quasiment 90e et réussir à revenir à 2-2, c'est un exploit qui ne plaît pas évidemment aux Lillois. Ça pourrait être catastrophique pour les Lillois. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure.
Ouais, après
mais ça pourrait vraiment devenir très très grave cette défaite. On en saura plus bien sûr à la 38e journée ou peut-être même avant. Mais ça pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le club qui pourrait carrément disparaître.
Bon, en tout cas, oui, s'est retrouvé en 4e, 5e division, comme ça a été le cas pour d'autres clubs qui étaient mal gérés. On revient donc sur ce match décevant, selon Antoine Comboiré. On a Christophe Carbrat qui nous a dit match moyen. Jimmy Briand, lui, a été beaucoup plus franc.
Ouais, même, faut pas avoir peur des mots, c'est un match pourri. Mais on a ramené un point, donc on va pas cracher dessus, on va bien se reposer. On sait ce qu'on a fait de mal aujourd'hui et ce qu'il faudra pas faire contre ces grosses équipes. Si on joue comme ça, et ben on va en prendre beaucoup, donc il va falloir régler le problème avant pour éviter de se faire peur à chaque fois jusqu'en fin de match.
Ouais, ouais, c'est Monaco, hein, le prochain gros club.
Exactement. Monaco qu'on a pris 7 hier.
Ouais, quand même, dans la musette. Ouais,
ouais. Ouais, j'étais au stade et je me disais, parce que Monaco et Paris sont les deux prochains adversaires de Guingamp. Et au départ, j'étais en train de rigoler. Je me disais, bon, ça va, le challenge, ça sera de pas être mené 4-0 au bout d'une demi-heure. Sauf que plus ça avançait, plus je me disais, zut, Monaco va peut-être être très revanchard samedi prochain et aura l'envie de laver l'affront. Ça promet, hein, quand même, entre une équipe de Monaco donc qui aura envie de se rattraper, et puis un Guingamp, voilà, qui continue d'avoir le même visage depuis toujours dans cette saison, c'est-à-dire celle d'une équipe qui réagit quand elle est dos au mur et qui ensuite ne met pas tous les ingrédients lorsque elle est un peu plus tranquille au classement. C'est ce qui était le cas avant le déplacement à Lille. Du coup, on a posé la question à Jordani Coco, pourquoi Guingamp ne met pas plus souvent ces ingrédients-là pour gagner à l'extérieur?
Je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est vrai que les deux derniers matchs, on a eu beaucoup d'agressivité, on a mis beaucoup d'ingrédients de notre côté pour faire une bonne entame, pour montrer à l'équipe adverse qu'on était là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas mis ces ingrédients-là. Pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, faudra se remettre vite au travail parce qu'il y a un gros match qui nous attend la semaine prochaine contre Monaco et ça va pas être facile.
Et ça, c'est vrai que c'était le discours de tous, hein, qui sont passés devant nous. Il faudra en faire, je sais pas, 3, 4, 5 fois plus contre Monaco. Parce que la pilule risque d'être salée si il y a le même visage que ce que l'on a vu sur la pelouse de Pierre Mauroy. Première pause dans ce magazine des déchaînés du football. On se retrouve juste après avec le problème d'avion des Guingampais, la situation au classement avec les autres résultats de cette journée et puis l'interview ex-AG de Jean-Baptiste Lebescon.
EDF Entreprises s'engage pour les professionnels en leur proposant des offres adaptées à leur activité comme le pack performance. Isabelle Afonso, conseiller EDF Entreprises, nous en dit plus dans un instant.
Business Affaires. Qui peut concurrencer la MAF?
Numéro 1, nous avons un problème. La loi est contre nous. Pour l'assurance de leur prêt immobilier, nos clients ont maintenant le droit de changer d'assureur chaque année. Et en partant pour la MAF, ils peuvent économiser jusqu'à 10 000 euros. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qu'ils préfèrent.
Vous avez échoué, numéro 3.
Moi, je préfère.
Je préfère la MAF.
Économie estimée selon le profil des assurés sur la base d'une comparaison avec les tarifs bancaires. Devis, conditions et modalités de la comparaison sur maf.fr et dans les agences MAF.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais.
Allô patron? Ah, je suis en colère, hein. Rouge de colère, vraiment.
Et la raison de ta colère?
La raison? Mais le raisin rosé, patron. Aujourd'hui et demain, chez Lidl, ils nous mettent le kilo de raisin rosé en vrac à 2,49€.
Moins de 2,50€ le kilo de raisin rosé chez Lidl? Tu veux me mettre en colère?
Oh non, mais patron...
Mais y'a pas de mais, avec toi y'a tes pépins. Ah, on est mal, hein.
Oui, vous avez raison patron, on est très mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine Pérou, Afrique du Sud ou Chili.
Et si on profitait d'un bon plan en exclusivité sur Orange.fr?
Moi avec Orange, j'ai un forfait mobile 30 gigas.
Ouais, pas mal. Mais moi avec Orange, j'ai un forfait mobile 30 gigas à 9,99€.
Comment t'as fait?
Sans bouger le petit doigt.
Oh.
Bon, j'ai cliqué sur Orange.fr.
Avec Orange, profitez du forfait mobile Play 30 gigas pour client open à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€. Disponible uniquement sur Orange.fr. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 16 mai en métropole, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur Orange.fr.
U-Power révolutionne la chaussure de sécurité et vous restitue plus de 55% d'énergie à chaque pas. Vous n'y croyez pas? Venez essayer la technologie Infinergy, vous ressentirez un confort que vous n'avez jamais connu avant. Nous vous attendons pour essayer les nouvelles chaussures de sécurité dans tous les points de vente U-Power. Trouvez-les sur upower.fr.
Moi,
J'adore descendre en dernier de l'avion. Voir tous ces gens me passer devant alors que je suis pressé. Et puis, il y a ce petit moment où tu te demandes s'il va rester un taxi. C'est dans ces moments-là que je me sens vraiment vivre.
Si comme lui, vous n'aimez pas choisir un siège à l'avant, alors le billet Flexi d'EasyJet n'est pas fait pour vous. Billet Flexi, l'offre business d'EasyJet à partir de 96 euros. Voir conditions sur EasyJet.com.
Attends, là, je vais dans le salon avec le sèche-cheveux de Julie, j'entends rien. Ah bah Tom passe aspirateur, je vais dans le jardin. Je te disais que payer sa consommation d'électricité 30% moins cher le week-end, ça, ça fait des économies. Parce que c'est surtout le week-end qu'on consomme. Bon, je te rappelle lundi.
Avec Engie, c'est moins 30% sur le prix de l'électricité le week-end. Et c'est de l'électricité verte. Pour tout kilowattheure consommé, l'équivalent en électricité renouvelable est injecté dans le réseau. Offre de marché LEC week-end, voire détails et conditions sur particulier.engie.fr. L'énergie, notre avenir. Économisons-la.
Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile?
Nespresso lance l'abonnement en exclusivité sur Nespresso.com. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro.
Nespresso, what else?
What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com.
Les déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur, 19h26. On continue à parler de ce match et de cette fin de match surtout extraordinaire de l'En Avant de Guingamp à Lille ce week-end.
Bah oui, finalement on va dire que les Guingampais ont commencé leur match en retard, comme ils sont arrivés à Lille en retard parce qu'ils ont eu un problème d'avion. Pour vous expliquer brièvement, quand Guingamp joue le samedi à 20h, généralement la délégation guingampaise prend l'avion vers 9-10h à Trémuson. C'est ce qui était prévu pour ce déplacement, sauf que leur avion était retenu, je crois, en Angleterre à cause du... Il y a eu un problème technique, je crois, la veille. Il y a eu le brouillard aussi qui fait qu'ils pouvaient décoller mais pas atterrir en Côte d'Armor. Du coup, les Guingampais qui étaient à l'aéroport sont allés en mise au vert à Guingamp, il me semble, voilà, pour déjeuner ensemble. Ils sont partis finalement sur les coups de 15h, donc ils sont arrivés à Lille vers 16h, 16h30. Ils sont allés rapidement à leur hôtel à Lille pour une collation et la causerie du coach, et ils sont arrivés un petit peu plus tard que prévu. Ceux qui regardaient le live sur la page Facebook des déchaînés l'ont vu. Généralement on fait un live vers 18h30, là les Guingampais sont arrivés vers 37, 38, c'est pas bien grave, mais voilà, ça a été un petit peu une péripétie dans cette soirée, dans cette journée lilloise, décidément forte en rebondissement. Nicolas Benezet est revenu là-dessus avec nous après le match.
C'est un déplacement qui s'est passé plus vite que prévu, donc du coup c'est mieux, parce que la mise au vert, on sait très bien que c'est pas le top pour les joueurs, mais bon, on y est obligé. Et on a eu la même chose que contre Saint-Etienne, bon ça n'a pas marché. Et là on arrive à s'en sortir avec ce périple, ouais. Mais bon, c'est des aléas, mais ça n'aurait pas été une excuse pour nous, ça c'est sûr.
Voilà, vous êtes arrivé en retard à Lille et vous êtes revenu en retard au match.
C'est ça, exactement. Et au final, on repart avec un point, donc c'est cool.
Ouais, ils s'en sortent bien, vraiment, les Guingampais sur ce coup-là.
Oui, ça se passera pas tout le temps.
Ça ne sera pas tous les coups comme ça.
Ce qu'on retiendra finalement en fin de saison, alors bien sûr que généralement on s'est ennuyé, voilà, on va dire qu'il y a à peine un tiers des matchs qui nous ont satisfaits du côté de Guingamp. Mais ce qui restera dans l'histoire dans 2-3 ans, ben on se souviendra du but de Briand contre Saint-Etienne, on se souviendra du coup franc de Grenier, on se souviendra de cette fin de match à Lille où on est mené 2-0 et on fait 2-2 à la fin. Voilà, et un petit chiffre, la Guingamp du coup est 11e au classement. Figurez-vous que depuis que Comboiré est arrivé à Guingamp, Guingamp n'a passé que 25% du temps hors top 10 dans le championnat de Ligue 1. Donc ça prouve quand même que Guingamp s'est installé comme club du ventre mou. C'est ce qu'on dit depuis des mois, mais ce chiffre en est la preuve. Voilà, ça fait 51 journées sous Comboiré. Il y en a eu que 18 où Guingamp a terminé en dessous de la 10e place. Donc, et là, c'est 11e. Hein, c'est pas. Je crois que la pire place de Comboiré, c'est 16e. Avec Guingamp, c'était avant la fameuse victoire à 3 au mois de décembre. La situation au classement, juste avant d'avoir notre invité ex-EAG Jean-Baptiste Lebescon avec nous. Paris est donc champion devant Monaco, qui n'a plus que 4 points d'avance sur Lyon et Marseille. Ça peut être chaud pour Monaco, surtout si Monaco se fait chatouiller à Guingamp lors de la prochaine journée. Rennes a fait l'une des mauvaises opérations dans la course à l'Europa League. Rennes à égalité avec Nice, 47 points, un point derrière Montpellier qui a perdu hier contre Bordeaux, et Saint-Etienne qui a fait la grande opération avec sa victoire assez miraculeuse selon les Stéphanois à Strasbourg. Nantes piétine. Nantes n'a plus gagné, je crois, depuis un mois. Mais Nantes n'est qu'à 2 points de Rennes. Et prochaine journée, c'est Nantes-Rennes. Mmh. Le derby, vendredi, à 19h30 à la Beaujoire. Bordeaux peut même y croire. C'est assez incroyable. Bordeaux, 10e, 43 points. Guingamp, 11e, 42 points avec Dijon. Ces équipes-là peuvent y croire si elles font un sans-faute sur la fin de saison. Le problème pour Guingamp, c'est que le sans-faute doit être fait contre Monaco, Paris et Marseille. Donc bon, on n'y croit pas trop. Mais voilà, si Guingamp peut être 9e, pourquoi pas. Guingamp n'est qu'à 3 points de Nantes. On verra ce qui se passe lors de la fin de saison. En bas de tableau, Toulouse n'a pas joué. Toulouse est 17e avec 30 points. Lille a gagné une place face à 3, 29 points. 3 qui a perdu contre Marseille en fin de match hier, avant-dernier 3. Et donc Metz qui a fait la belle opération, revenant à 5 points de Toulouse, premier non relégable, et à 4 points de Lille. Barragiste, on rappelle, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, il y a un Lille-Metz au stade Pierre-Mauroy. Et petite information aussi, parce qu'on va sans doute parler de compte d'apothicaire, comme on dit. Il y a une nouvelle règle cette saison en Ligue 1 concernant la différence de but. Le premier critère, c'est la différence de but générale. Le second critère, ce sont les confrontations directes. Ce n'est plus
le nombre de buts marqués.
Ouais. Voilà, différence générale en 1 et en 2, confrontation directe. Je parle notamment pour Lille et 3, parce que Lille a moins 21, 3 moins 22. Si les deux équipes à la fin sont à égalité, par exemple moins 22 pour toutes les deux, c'est 3 qui sera devant, parce qu'il y a eu match nul à l'aller et victoire de 3 au retour contre Lille. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est vrai. D'ailleurs, peut-être que plus tard, ça serait bien que ce soit les confrontations directes qui soient prioritaires sur
le nombre de buts
sur l'égalité.
Ouais.
Voilà, exactement.
Quand on est égalité dans le goal average.
Voilà, c'est le cas par exemple en Espagne. Bon, on y revient, on fera peut-être d'autres débats plus tard. En tout cas, pour l'instant, on accueille notre invité ex-EAG, Jean-Baptiste Lebescon. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors, on dit invité ex-EAG, oui et non avec vous, parce que vous n'êtes plus joueur à l'En Avant de Guingamp, vous êtes entraîneur des U19, les moins de 19 ans de l'En Avant de Guingamp. Comment se passe cette saison pour vos jeunes?
On a une saison un peu classique, dans la mesure où on a commencé un peu difficilement, parce qu'on a la philosophie de faire jouer de très jeunes joueurs au début, donc le temps qu'ils appréhendent le niveau, il y a un écart assez important entre le championnat 17 ans nationaux et 19 ans nationaux. Et puis le temps de se roder, et puis là après on est sur une très grosse série, donc qui nous emmène, je crois, au niveau du classement, être 3e ou 4e. Je crois égalité de points avec les Stades Rennais, donc voilà, même si on regarde pas trop le classement, on est surtout sur des principes de formation, mais c'est une saison qui se passe très bien. En parallèle, on a eu le parcours en Gambardella jusqu'au 8e, jusqu'à Sochaux, et on est sorti au penalty. Ça s'est joué à 3 fois rien, donc voilà, c'est une saison qui est satisfaisante. Ouais.
C'est un regret, la Coupe Gambardella, parce que vous étiez à une séance de tir au but d'être en quart de finale, et on rappelle que quart de finale, c'est la plus grosse performance de l'histoire de l'En Avant de Guingamp. C'est un petit regret?
Oui, ça reste un regret. Bon, surtout pour les joueurs. Après, à titre personnel aussi, parce que j'avais décidé de mettre en place une équipe cette année qui était relativement jeune pour la Gambardella. J'avais 3-17 ans qui étaient titulaires, qui étaient avec moi à l'entraînement depuis le début de saison, à des postes en plus importants, défenseur central, milieu défensif et attaquant. Et il y avait surtout un tableau qui était très ouvert cette année. Donc les grosses cylindrées, gros centres de formation qui sont Lyon, que sont Saint-Étienne et Lille, etc., étaient sortis assez tôt dans la compétition. Donc il y avait le tableau qui était ouvert. Et voilà. Et puis on a eu une marge de l'aspect historique. Ouais, le quart de finale, on l'avait fait. Moi, je l'avais fait il y a 3 ans, toujours à Sochaux. On était tombé aussi, et donc ça s'est répété. Donc ouais, ça reste un petit regret. Ouais.
Bon, la 3e sera la bonne, Jean-Baptiste. C'est vrai, on rappelle que la finale, ça sera Tour 3, la finale de la Coupe Gambardella. Un mot aussi, forcément, on est obligé de venir, d'y venir, parce que vous êtes à l'académie, et cette académie a été touchée par la disparition du jeune Baptiste Le Foll. On imagine que ces dernières semaines n'ont pas forcément été très agréables.
Non, bien sûr, ça a été quelque chose de terrible à vivre, de dramatique, voilà. Au-delà du fait que ce jeune garçon soit à l'académie, c'est surtout difficilement compréhensible qu'un jeune garçon comme ça de 11 ans puisse disparaître, alors qu'il paraissait en très bonne santé. Et puis voilà, après, ça a été difficile à vivre, bien sûr, aussi, forcément pour son entourage, mais à sa famille, mais aussi ses petits copains de l'équipe U12. Que moi je croise, parce qu'ils s'entraînent souvent sur des créneaux avant ou après moi, donc ça a été très difficile, ça l'est toujours, parce que, et ça va le rester pendant un moment, puisque bon voilà, ils vont devoir grandir avec ça.
Oui, c'est évident, et on pense bien sûr à tous ses proches ce soir. Jean-Baptiste, on va passer à votre parcours d'ex-joueur en avant de Guingamp. Alors, vous faites partie des rares joueurs à être... hop là, ça c'est le son du quiz ex-EAG, ça sera tout à l'heure. Jean-Baptiste, vous avez commencé à 6 ans à l'école de foot de Guingamp. Et apparemment, vous êtes l'un des 3 seuls joueurs issus de l'école de foot à être passé professionnel, à avoir joué en pro avec Guingamp.
Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, je suis natif de Guingamp. Après, mes parents habitaient à Ploumagoire, et c'est vrai que mon premier club, je me suis vite tourné vers le club phare de la région, et puis c'était Guingamp, ça collait à la maison. Et oui, j'ai débuté en débutant. Après, j'ai fait toutes mes classes comme les autres, et petit à petit, j'ai vu jouer mes copains qui s'orientaient vers des clubs amateurs. Et puis moi, j'ai eu ce bonheur-là de pouvoir continuer mon parcours, et puis de gravir tous les échelons jusqu'à signer professionnel et y jouer un peu. Mmh.
Alors, on rappelle que les deux autres joueurs à avoir eu votre parcours parti de l'école de foot et avoir joué en pro, Ronald Thomas et Nicolas Laspal, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Ouais, on est 3 de mémoire. Comme ça, je pense pas qu'il y en ait d'autres après. Mais bon, ça, c'est un peu normal aussi qu'il n'y ait pas plus de joueurs que ça, parce qu'on est une toute petite agglomération, donc forcément, le ratio il est faible.
Alors, vous avez joué 5 matchs, Jean-Baptiste, avec les pros, dont 4 en Ligue 1. Est-ce qu'on peut dire tout de même que votre rêve s'est réalisé, de jouer en pro avec en avant? Ou est-ce qu'il y a un petit regret de ne pas en avoir joué plus?
Bien sûr, je mentirais si je disais qu'il n'y a pas de regret, même si je ne suis pas avec. Mais bien sûr, bon, le premier rêve, c'était de signer professionnel pour remettre les choses dans leur contexte. Moi, à mon époque, ce qui est différent actuellement, c'est que s'il y a très peu de joueurs issus de la formation qui signent à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je suis né en 80, et le dernier à avoir signé, c'est Laurent Hervé, il était 76, et pendant 4 ans, il n'y a aucun joueur qui signe. Donc, qui plus est, pour un joueur du cru, c'était très compliqué. Donc ce premier rêve-là a été atteint, signé professionnel, de pouvoir aussi côtoyer les joueurs d'une génération supérieure qui était Stéphane Carnot, Coco Michel, Nicolas Spal, tous ces joueurs-là, j'ai supporté, moi, en ayant 13-14 ans, en étant un jeune de Guingamp. Donc ça, c'était le premier rêve. Après, bien sûr qu'il y a des regrets de ne pas avoir pu basculer en tant que vrai titulaire, mais il faut remettre les choses dans son contexte aussi. C'est qu'à l'époque, c'est de la Ligue 1. C'est de la Ligue 1 avec, à mon poste, en tant que milieu défensif, beaucoup, beaucoup de concurrence avec des joueurs cadres, pour les nommer. C'était Coco Michel, c'était Christophe Leroux, il y a eu Jérôme Leroy, il y a eu beaucoup de gros joueurs, des joueurs cadres avec beaucoup de matchs en Ligue 1. Donc j'étais doublure, j'attendais mon heure, et puis elle est jamais vraiment venue, donc oui, ça reste un petit regret quand même.
Alors, je rebondis là-dessus, parce que vous dites qu'à l'époque, très peu de joueurs passaient professionnels. Est-ce que là, vous, avec l'académie, vous sentez que il y en aura de plus en plus des joueurs qui franchiront ce pas de l'académie à la Ligue 1, on l'espère, en tout cas à l'équipe pro d'en avant?
Bien sûr, on fait tout pour, parce que les installations sont pas les mêmes. On a été doté d'un super outil. Le club est plus installé en Ligue 1 qu'il n'était à l'époque aussi. Donc moi, quand le club était en Ligue 1, c'était de façon assez précaire, et le club avait peut-être une petite réticence à faire jouer des jeunes ou à lancer des jeunes, tout simplement. Ce qui est moins le cas ces dernières années, quand on voit deux joueurs qui sont passés avec moi là, Marcus Coco, Ludovic Blas. Donc on espère, oui, qu'il y ait de plus en plus de joueurs à pouvoir intégrer cet effectif et à devenir surtout titulaire, quoi.
À quel moment de votre carrière, Jean-Baptiste, vous avez senti que vos premiers matchs approchaient? On rappelle que vous jouez surtout la fin de saison, vous participez à 3 matchs de la fin de saison incroyable en 2002-2003. Mm-hmm. C'est à cette époque-là, ou c'est peut-être un peu plus tôt que vous avez senti que ça allait arriver?
Non, c'est avant, parce que à partir du moment où justement je signe pro, c'était une époque où le contrat pro avait peut-être un peu plus de valeur qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on signait pro pour pouvoir y jouer. Maintenant, aujourd'hui, le contrat pro sert surtout à protéger le club d'un éventuel club étranger qui pourrait venir, entre guillemets, piller un jeune. Mais non, j'avais le sentiment que je pouvais jouer. Je travaillais très très dur à l'entraînement, comme j'avais toujours fait quand j'étais avec la réserve et les équipes de jeunes, et je sentais que j'étais pas très loin de ceux qui jouaient. Donc j'attendais, c'est arrivé un peu plus tard dans la saison. Je suis jamais vraiment rentré à mon poste, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y avait vraiment des figures importantes de l'équipe qui étaient à ce moment-là en place. Donc je suis rentré à des postes différents de celui que j'occupais et que j'avais l'habitude de jouer.
Et on se souvient notamment que lors de le match où vous jouez le plus longtemps en Ligue 1, c'est ce fameux Guingamp-Monaco. D'ailleurs, le dernier match de Drogba à Roudourou sous le maillot de Guingamp, victoire 3-1. Vous entrez à 25 minutes du terme. Alors, on rappelle que vous êtes milieu défensif de formation. Mm-hmm. Vous aviez joué à quel poste sur ce match?
J'étais rentré latéral gauche à la place de Romain Ferrier. Ouais. Je suis droitier, ouais. Donc c'est pareil, en face il y avait une grosse équipe de Monaco qui jouait le titre sur l'avant-dernière journée, qui était au coude à coude avec Lyon. Et il y avait des joueurs, des gros joueurs en face, il y avait Djouli en pleine force de l'âge, il y avait Shabani Nonda à l'époque qui était un attaquant très réputé en Europe, il y avait beaucoup de joueurs, il y avait Gallardo. Mmh. Donc c'était une grosse équipe et là quand on m'appelle, c'est vrai que je crois que Bertrand Marchand ou Yvan Schmid m'appellent et ils me disent tu vas rentrer. Mais tu vas rentrer côté gauche et latéral gauche, donc mauvais pied avec Djouli en face. Et la chance que j'ai, c'est que Monaco n'y arrivait pas. Et Djouli, je sais pas, il a vu un petit jeune rentrer. Les premières courses, j'ai contrôlé. Et puis il est vite parti dans l'axe. Donc ils m'ont donné en échange d'un Dr Sow. Donc il y avait un profil différent, moins vif que Djouli et un peu plus de haut jeu. Donc je pense que ça m'a aidé aussi.
Parce que c'était dur, en plus vous meniez 2-0 sur ce match-là, Monaco revient à 2-1, vous rentrez à 2-1, ouais. Monaco pousse, et finalement Malouda marque le troisième but à la fin. Ouais. On avait l'impression de l'extérieur qu'il y avait une ambiance folle dans cette fin de saison, dans le groupe, avec les Drogba, Malouda qui sautaient partout. C'est l'impression aussi, c'est l'impression que vous en gardez maintenant, des années après, de cette ambiance-là dans le vestiaire.
Il y avait une ambiance qui s'était créée au fil du temps, parce que j'entends souvent dire le groupe vit bien. Bon, c'est une phrase un peu bateau. Nous, le groupe, il vivait comme tous les groupes vivent au début. Il y avait beaucoup de concurrence, c'est-à-dire que nous, on avait été 2-3 jeunes à arriver dans le groupe à ce moment-là, quand le club venait juste de se maintenir la saison d'avant contre 3 à domicile. Donc je pense qu'on est arrivé au bon moment et on a boosté quelque part un peu les joueurs qui étaient installés depuis longtemps. Ils le diront, ils l'ont dit après assez ouvertement, Stéphane Carnot, Coco Michel, ils ont senti cette nouvelle vague arriver et puis je pense que ça a bien pris. Et puis au fil du temps, les affinités se sont créées et puis on a eu vraiment un gros groupe de travail et peut-être un peu de réussite. Mais ce qui a fait une fin de saison et une saison en tout et pour tout qui a été extraordinaire, qui reste quelque part un peu unique encore, parce que c'est toujours le record du club.
Oui. Mais voilà, le club qui finit à 3 points de la Ligue des Champions.
Mais 7e, c'est même pas très très parlant finalement, parce qu'on est 3 points de Marseille, je crois, qui est 3e. Et on a 6 points de Lyon qui est champion de France, quoi. Donc c'est avec une période de disette qui doit durer 8 à 10 matchs en janvier-février où on prend quasiment pas de points.
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, après la saison, Bertrand Marchand a dit dans une interview que je ne sais pas s'il avait fait les calculs, mais si on enlevait cette période-là en janvier, Guingamp était champion de France cette année-là en 2002-2003. Ce qui est incroyable, Jean-Baptiste, c'est que vous avez joué avec Didier Drogba et récemment, on l'a vu au mois de février, il me semble, c'était vous qui avez posé avec le fils de Didier Drogba lors de sa présentation, Isaac Drogba qui a signé un contrat, qui va rejoindre l'académie. Je crois que c'est l'année prochaine qu'il pourra jouer Drogba, mais c'est une super histoire.
Ouais, c'est une super histoire. Alors bon, j'avais eu vent de ça avec le président les semaines précédentes. Et donc j'attendais un peu voir comment ça allait se passer. Je sais que Didier voulait que son fils Isaac vienne dans les rangs de l'académie pour bien travailler, pour poursuivre son éducation. Et oui, il est arrivé ce jour-là. Après, la tâche m'a été confiée de l'accueillir. Donc c'était quand même un peu spécial. Donc moi je l'ai vu faire ses premiers pas de jeune petit garçon à Guingamp, puisqu'il venait après les matchs et lors des journées de décrassage dans le vestiaire. Donc lui il s'en souvient pas, bien sûr.
Oui, il avait 2-3 ans, non? Oui, il était tout petit.
Il avait 2 ans, il se souvient pas des années Guingampaise. On est d'ailleurs passé, parce qu'au début je l'ai véhiculé un peu forcément quand il était à l'hôtel et tout, et puis on est passé devant la maison où Didier a habité pendant son séjour à Guingamp et c'était drôle. Bon, il avait aucun souvenir, mais ça a dû lui faire bizarre quand je lui ai montré c'était là que t'habitais. Ça a dû lui faire drôle parce que lui a connu forcément les années londoniennes et autres.
Ouais, exactement. Jean-Baptiste, vous restez avec nous, on marque une petite pause dans cette interview ex-EAG et on revient avec 2-3 dernières questions et bien sûr le quiz ex-EAG. À tout de suite.
Ok.
C'est parti pour pour la liquidation West Meuble à Lamballe. Tout doit disparaître. Profitez de prix intéressants sur les salons, séjours, la literie et la décoration. La liquidation West Meuble à Lamballe, c'est maintenant. Liquidation selon arrêté municipal.
West Meuble à Lamballe. Votre signature intérieure. Bordure RN12 et sur westmeuble.fr.
Oh, à la pêche, on s'ennuie.
Cliché.
Le jardinage, c'est pour les vieux.
Cliché. Au Jardin du Littoral et chez Alpha Nautique ce week-end, balayez vos idées reçues. Pendant nos portes ouvertes, démonstration au nouveau rayon pêche de votre spécialiste bateau, en musique avec le Bagad Salicorne. Dans votre jardinerie, gagnez un palmier à la tombola gratuite.
Chez Alpha Nautique et au Jardin du Littoral, cocktail de bienvenue et promotion sur de nombreux produits aux portes ouvertes les 20, 21 et 22 avril, rue de la Croix-Aumère, la Saint-Calle-Guildo.
Vendre une maison ou un appartement, ce n'est pas toujours facile. Dans le secteur de Lamballe, Pléneuf-Val-André, Erquy et les alentours, Benjamin, votre nouvel agent immobilier, saura tout mettre en œuvre pour réaliser votre vente. Contactez votre agence de proximité Projet de Vie Immobilier au 06 38 30 0027. 06 38 30 0027.
Attention, voici un communiqué important de la direction de Mobilier de France à Saint-Brieuc-Langueux. Après 26 ans d'activité, et pour faire face aux évolutions du marché de l'ameublement, nous sommes amenés à prendre une décision difficile et à procéder de toute urgence à la liquidation totale de tous nos stocks avant fermeture définitive du magasin. Tous les prix seront sacrifiés, tout va disparaître. Alors, soyez les premiers à en profiter. Liquidation totale avant fermeture définitive, c'est maintenant, chez Mobilier de France, rond-point du Pin Parasol, derrière Carrefour à Langueux. Meubles, salons, décorations, dépêchez-vous. Liquidation selon arrêté municipal.
Tous les dimanches de 8h à 10h, c'est Debout là-dedans, votre émission d'accordéon sur Radio Bonheur. Retrouvez Debout là-dedans tous les dimanches avec votre producteur de produits frais et locaux, la ferme de sous la ville, à l'Antique.
Radio Bonheur, Radio Bonheur, Radio Bonheur, moi j'aime bien.
Retour des déchaînés du football, 19h47 avec notre invité ce soir, notre invité ex-EAG, qui fait quand même encore partie de l'EAG, Jean-Baptiste Lebescon.
Oui Jean-Baptiste, alors on a parlé de la fabuleuse saison 2002-2003, qu'est-ce qui s'est passé en 2003-2004 pour qu'il y ait la descente en Ligue 2 en fin de saison?
Bon, déjà on a perdu des joueurs majeurs, tout le monde le sait. Donc les deux joueurs prometteurs qui sont partis naturellement forcément vers de clubs plus importants, Didier et Flo. Donc voilà, après les cadres aussi ont pris une année en plus et peut-être qu'après au niveau sur le recrutement ça a pas comblé ces départs là. Malgré tout, c'est une saison où on doit se maintenir parce qu'on a beaucoup d'opportunités pour se maintenir. Je repense encore au dernier match Roudourou contre Nice où nous il nous faut un point et on mène 1-0 et puis ils égalisent un partout et puis sur le dernier corner il resterait peu de temps et nous on était sur le banc et il y a Sami Traoré à l'époque qui était à Nice et qui monte et comme ça se passe souvent sur les derniers matchs il y en a qui le connaissaient et on lui dit Sami pourquoi tu montes et il nous fait style il monte tranquille il doit dire tranquille. Et en fait, il monte sur le corner et puis c'est lui qui marque. Donc on est battu à Nice. Après, il faut aller faire un résultat à Marseille. Et puis Marseille devait jouer l'Europe ou je sais plus. Je sais que Steve Marley qui doit marquer. Ça se termine comme ça. Mais on a eu beaucoup de situations dans la saison pour se mettre à l'abri. Et on n'a pas su le faire.
Oui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, le scénario du Guingamp Nice, c'est un peu le scénario du Lille Guingamp de ce week-end. Avec bon, il n'y avait pas deux buts d'avance, mais voilà, finalement ce match perdu avec deux buts en toute fin de match. Ouais. Trois dernières questions, Jean-Baptiste. Quel est le joueur ou les joueurs les plus forts que vous ayez côtoyés à Guingamp lors de vos années en pro?
Je vais dire, celui qui a eu la plus grosse évolution, c'est forcément Didier Drogba. C'est-à-dire que quand il est arrivé, moi j'étais dans le groupe, quand il est arrivé quand Guy Lacombe le prend à la trêve, et c'est vrai que ses premiers entraînements, première séance devant le but, on sent qu'il y a un potentiel athlétique déjà, mais c'est devant le but, il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis il finit tant bien que mal cette demi-saison, il marque 3-4 buts je crois, mais et la deuxième partie de saison, la deuxième saison repart et puis on a le sentiment dans le groupe qu'il est pas forcément la priorité du nouveau coach. Et d'ailleurs en stage, il est souvent avec moi d'ailleurs, puisque moi j'étais un des jeunes du groupe. Il est souvent sur le côté quand il y a des oppositions. Je me rappelle notamment d'une en fin de stage. Donc voilà, ce qui fait qu'il n'était pas forcément prévu pour démarrer. Et puis après, c'est la saison qu'il fait, mais le mérite lui en revient parce qu'il a beaucoup travaillé. Il a eu beaucoup d'humilité, il a beaucoup travaillé sur cette saison-là. Et puis ça a vite porté ses fruits. Donc c'est la plus belle évolution. Et puis après, il fait une carrière extraordinaire. Après, j'en ai croisé quelques-uns. Cédric Barbon était très très doué aussi, très doué. Alors, il manquait un peu peut-être, il m'en voudra pas. J'ai encore en contact de lui un peu de travail. Il était très très doué. Et dans la deuxième saison de Ligue 1, 2003-2004, il y a Jérôme Leroy qui est passé aussi, qui pour moi aurait dû faire une toute autre carrière, qui était vraiment un joueur hors pair et qui voyait le jeu, allez, une ou deux secondes avant tout le monde, et que c'était vraiment quelque chose de le voir au quotidien.
Ouais, c'est trois joueurs qui ont marqué effectivement l'en avant de Guingamp, notamment Bardon. On se souvient de la victoire 3-2 contre Paris. C'est lui qui emmène la majeure partie des buts.
Ouais,
on l'invitera un jour, c'est sûr. L'anecdote que vous n'avez jamais racontée, Jean-Baptiste, sur vos années à Guingamp.
Ouais, il y en a plusieurs. J'en ai deux petites. J'ai une petite qui, je vais vous la raconter. Je pense qu'elle a déjà été racontée par Stéphane Carnot. C'est la fameuse course de Omar.
Je la connais pas.
On va raconter celle-là. En fait, ça se passe après Monaco. Et le club décide qu'on reste au vert, en fait, après Monaco, quand on gagne 3-1. Et puis, pour jouer Lyon derrière. Parce que le président Legret voulait absolument qu'on fasse des résultats. Et donc, on repart après le match de Monaco à l'hôtel, à Tréguier. Et bien sûr, c'est un peu la fête. On vient gagner Monaco. Il nous reste un match à jouer. Et puis, on fait une soirée qui est un peu arrosée. Et puis dans la soirée, mais Stéphane tout ne l'a déjà raconté, il y a une fameuse course de homards, et c'est moi l'instigateur, en fait. C'est moi qui vais chercher les homards dans l'aquarium de l'hôtel, et puis je les donne à Toon qui nous fait cette fameuse course de homards sur le carrelage du hall d'entrée de l'hôtel, quoi. Donc, c'était un grand moment, ce sont de super souvenirs. On en rigole encore des fois quand on en reparle. Donc ça, c'est la première. J'ai une autre petite aussi, c'est sur la deuxième saison où on rigole un peu moins. Et justement, comme on est un peu moins performant, le président Legret décide à la trêve, à Noël, de nous envoyer à Jersey pour un stage un peu commando. Donc on part le 28 décembre de mémoire à Jersey. On se retrouve à l'aéroport à Lannion. Bon, ça tire un peu la gueule dans tous les côtés, parce que on vient de passer une semaine en famille, et puis on doit partir à Jersey. Il fait une météo catastrophique en plus, donc c'est très difficile de s'entraîner. Et puis en plus de ça, comme c'est ma Jersey, c'est l'Angleterre, donc on mange pas super bien, et puis un repas se passe, deux repas se passent, et au bout d'un moment, il y a les cadres de l'équipe qui se réunissent, et puis qui nous disent à nous les jeunes, il va falloir trouver une solution. Et puis en fait, la solution, ça a été de à l'abri des regards du staff pro, d'aller chercher, à l'époque il y avait des KFC qui étaient à Jersey, pas encore en France installés. Donc on ramenait des seaux de poulet pour tout le monde, et on mangeait ça dans nos chambres après le repas. C'est-à-dire que sur le repas officiel, on mangeait pas grand chose, parce que c'était pas vraiment vraiment pas bon. Et puis c'est ce qu'on faisait après sur les repas, en fait.
Voilà. Des petits filous.
Ouais, bravo, ouais, Jean-Baptiste. Il fallait remonter le moral des troupes, et je pense qu'on en avait besoin, et que ça n'avait pas été un stage qui avait été dans l'objectif premier au niveau diététique et du repos. Ça n'avait pas été ça, parce que aussi il y avait un pub dans l'hôtel, et je crois qu'au bout de 3 ou 4 soirs, pareil, on n'avait pas la télé, et il avait fallu passer le temps, et il y a une soirée qui s'est passée dans le pub. Et la séance d'entraînement du lendemain, qui était une séance athlétique, avait été assez mémorable. Ça avait été très très compliqué pour beaucoup d'entre nous. On va pas aller plus loin dans le détail.
Les têtes tournées autant que le ballon, on va dire.
Voilà.
Dominique, est-ce qu'on a le temps, juste avant la pause, de faire le quiz ex-EAG?
Voilà.
On revient juste après pour le quiz ex-EAG. Jean-Baptiste, préparez-vous.
EDF Entreprises propose des offres et services adaptés à ses clients professionnels. Isabelle Afonso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller EDF Entreprises et vous allez nous parler du pack performance. Alors, de quoi s'agit-il au juste?
Eh bien, le pack performance d'EDF Entreprises, c'est à la fois un contrat de fourniture d'électricité et un service de suivi de consommation sur une durée de 3 ans pour aider le client à maîtriser sa facture.
D'accord. Et comment ce pack performance simplifie-t-il la vie des professionnels?
Eh bien, par exemple, une entreprise peut suivre sa consommation d'énergie sur une plateforme dédiée. Elle va recevoir des alertes en cas de dérive, elle peut même partager les informations avec ses collaborateurs et réagir rapidement et efficacement si besoin.
Et pour le contrat de fourniture d'électricité?
L'offre protège le client des hausses des prix du marché de l'électricité pendant une période de 3 ans. Si les prix diminuent, il bénéficie alors de cette baisse. C'est une offre simple, il n'y a aucune obligation de consommation, et puis pendant cette période, le client peut se concentrer sur son activité.
Très bien. Et si on veut se renseigner sur ce pack performance?
On va tout simplement sur le site d'EDF Entreprises, où on appelle son conseiller au 3022.
Merci beaucoup, Isabelle.
Merci à vous.
Appel gratuit. Voir caractéristiques et conditions des offres sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais.
Allô patron? Bon ben...
On est dans les choux, c'est ça?
Dans le chou-fleur, oui. Ouais, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 99 centimes l'unité.
Non!
Si patron, moins d'un euro la pièce, et origine France en plus, hein. Le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire.
Et ça te fait rien. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues.
Pardon patron, hein. Mais 99 centimes, hein. On est mal.
T'as raté?
Oui, mais là, on est très mal, hein.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, origine France.
Clara, elle voulait pas que je fume des joints en conduisant. Elle voulait pas. Elle me disait tout le temps. Mais je l'écoutais pas, ça me mettait bien. Jusqu'à notre accident. Jusqu'à ce que je la vois mourir à côté de moi. Jusqu'à ce que je réalise que c'est moi qui l'ai tuée. Et ça, je pourrais jamais me le pardonner.
Fumer du cannabis est illégal. Sur la route, ça peut être fatal. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Leclerc.
Mais enfin, papa, je t'y prends, là.
Quoi?
Tu manges les petits filous de tes enfants?
Avec 30% de réduction immédiate chez Leclerc.
Mais c'est pas une raison.
Non, mais c'est tellement bon, du bon lait français avec des bons fruits mixés.
Ouais, je sais.
Du 17 au 28 avril chez Leclerc, le pack de 18 petits filous aux fruits mixés de Yoplait, origine France, de 50 grammes chacun, avec 30% de réduction immédiate, est à 1,36€, soit 1,51€ le kilo. 20 modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
C'est bon, hein.
Super bon.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Conforama, le confort pour tous.
Quand on baisse de 120 euros le prix de la télé Samsung incurvée 123 cm, soit 579 euros,
on pense à ceux qui exigent le meilleur de la technologie.
Et aussi à ceux qui aiment le grand spectacle.
Conforama, jusqu'au 30 avril, conditions en magasin et sur conforama.fr.
Leclerc. Papa, tu fais quoi là?
Regarde-moi ça. Un siège bébé autopilotant Clipperton. Top sécurité et top pratique. Harnais 5 points, dossier 3 positions.
T'es spécialiste en siège bébé maintenant.
Je m'intéresse. J'ai promis à Régis de le conseiller et là je peux même le garantir. Ça, c'est du costaud.
Chez Leclerc, il y a tout pour les parents qui veulent tout pour leur bébé. Avec du 10 au 21 avril, le siège autopivotant Clipperton de 0 à 4 ans environ à 93 euros seulement. Avec en plus 10 euros en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Bon papa, on y va.
Tous ensemble avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, on écoute Radio Bonheur.
Toute la journée, toutes les heures, on écoute Radio Bonheur.
La dernière ligne droite du magazine des déchaînés du football, parce qu'on est sérieusement en retard ce soir, Pierre, 19h57.
Et on salue Kevin Baudin qui devait être avec nous. Et d'ailleurs, il sera avec nous la semaine prochaine, en espérant qu'il y ait un aussi bon résultat pour Lannion la semaine prochaine. Il vous salue, Jean-Baptiste. Vous avez le bonjour.
Il faut lui retourner. Je suis pas de bonjour.
Voilà, bah, il nous écoute. Bonjour Kevin, et on se dit bien sûr à la semaine prochaine. Jean-Baptiste Lebescon, vous êtes avec nous pendant encore un tout petit peu plus d'une minute pour le quiz ex-EAG. Une minute de questions plus ou moins sérieuses sur l'année, surtout sur l'année 2002-2003. Jean-Baptiste, êtes-vous prêt? Score à battre 11 points.
Je suis prêt.
Allez, quel était votre numéro de maillot?
24.
Qui avait le 23?
Joseph Tiranet.
C'était Auriol Guillaume qui avait le 25.
Steve Renet.
Et c'était Stéphane Carnot. Qui porte le 24 cette saison?
Marcus Coco.
Bonne réponse. À deux près, combien de points aviez-vous obtenu au classement en 2002-2003?
62.
Ah bah, tout pile. Bonne réponse. Citez deux équipes que vous aviez battues deux fois dans la saison.
Nantes.
Une bonne réponse. Regardez et vers
Marseille.
Ah, Marseille, non, il y avait eu match nul à l'aller. Une bonne réponse quand même. Et une équipe qui vous avait battu deux fois. Il y en a trois qui vous ont battu deux fois. Pensez aux défaites à Rodougou.
J'ai pu venir exactement.
Allez, on passe. Non. Quel club vous avez éliminé de la Coupe de France en huitième de finale?
Angoulême.
Bonne réponse. Allez, on termine rapidement. Vrai ou faux, c'est en avril qu'a eu lieu la plus longue série de victoires. Vrai ou faux?
Faux.
Faux, c'était en décembre. Vrai ou faux, les deux buts de Carnot contre Monaco sont ses derniers en Ligue 1 dans sa carrière?
Vrai.
Vrai. Quel joueur manque un face-à-face devant Roma avant le troisième but contre Monaco? Et quelle était l'affluence exacte de ce match?
18 001 spectateurs.
Ah, et comme disait Bernard Cattier, pas 2, 1 spectateur. Voilà. Jean-Baptiste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes réponses. C'est pas mal pour le quiz ex-EAG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne suite de saison avec nous.
Merci à vous. Merci à vous, Pierre, et puis bonne fin d'émission.
Merci. Merci encore. Bonne soirée.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Radio Bonheur, il est 20h.
Oui, un petit mot rapidement. Alors, on va faire très vite parce que, de toute façon, c'était pas des bons résultats en National 2 ce week-end. Nul de Saint-Brieuc, un but partout. Défaite de Saint-Malo, 3-0 contre Fontenay. Le Mans a gagné, donc malheureusement pour la montée.
C'est râpé.
Pour Saint-Malo-Saint-Brieuc. Par contre, samedi prochain, Saint-Malo-Saint-Brieuc au stade de Marville. Et ça, ça va être un joli derby. On y reviendra bien sûr lundi prochain dans l'émission. Un petit coucou à nos amis de Lannion qui ont gagné 3-2 à la dernière minute ce week-end devant Redon du côté de Dinan-Léon. Victoire contre Brest B 1-0. La belle saison continue pour nos deux clubs costa-armoricains en National 3 parce que Dinan-Léon est 4e, Guingambé 5e qui a fait match nul et Lannion 6e. Van file vers la montée. Et puis, et bien voilà, c'est terminé. 20h01.
Playdel, ne jouez pas ce week-end peut-être. Playdel,
bah, j'ai pas eu le score. J'ai pas vu le score des féminines, mais j'ai vu le score des U17. Je vais pas le dire. Elles savent de quoi je parle. Je vais pas le dire contre l'Amballe B. Voilà.
Merci perdu, Pierre. Voilà, on se retrouve demain matin à 8h30 pour la rubrique. Rediffusion à 17h30. Le prochain match de l'En Avant de Guingamp. La réception de Monaco à vivre en direct sur Radio Bonheur samedi prochain à 19h30.
Et pour une victoire contre un gros, on l'espère, c'est l'enjeu de cette fin de saison.
Bonsoir Pierre, bon appétit.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Radio Bonheur, 20h et presque 2 minutes.
Jusqu'au 21 avril, ce sont les 10 jours de l'occasion chez Bodemer Auto, Guingamp, Lamballe, Loudéac, Paimpol et Saint-Brieuc. 10 jours de folie. Pack entretien à 1 euro et taux de financement exceptionnel, cumulable avec les 2000 euros de prime à la conversion.
Les informations sur Radio Bonheur avec les fenêtres Vitel. Besoin de changer ? Les fenêtres Vitel vous apportent confort et esthétique. Vitel, votre fabricant poseur de fenêtres, bordure RN12 à Plérin. Vitel, la qualité après usine.
C'est François Poulet qui présente les infos de 20h sur Radio Bonheur. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Parmi les 12 manifestants prosadistes placés samedi en garde à vue, 8 ont été déférés ce lundi en vue d'un jugement souhaité rapide pour certains. Les 6 adultes impliqués dans les affrontements avec les forces de l'ordre intervenus lors d'une manifestation de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à Nantes devaient être jugés en effet en comparution immédiate dans l'après-midi. Les 2 mineurs devaient eux être présentés à un juge pour enfants. 3 autres manifestants ont été remis en liberté après avoir reçu une convocation à comparaître ultérieurement. Un dernier a été maintenu en garde à vue. Par ailleurs, une enquête de flagrance pour violence aggravée a été confiée à la section de recherche d'Angers. La SNCF a annoncé ce lundi qu'elle lançait la filiation de sa branche de fret ferroviaire, déficitaire et lourdement endettée, pour permettre sa recapitalisation et sa relance afin de bâtir un plan d'affaires rentable. Après une recapitalisation effectuée au sein du groupe SNCF, Fret SNCF serait doté d'une personnalité juridique propre, société dont le groupe public ferroviaire détiendrait 100% du capital. Cette annonce survient quelques heures après que le Premier ministre Édouard Philippe a demandé à la ministre des Transports de préparer un nouveau plan de relance du fret ferroviaire, qui n'assure plus en France que 11% de transport de marchandises. Des personnels des urgences de plusieurs hôpitaux de Lyon en grève pour certains depuis plusieurs mois ont organisé ce lundi un die-in pour réclamer des moyens pour la santé. Une trentaine de personnes allongées sur le sol en blouse blanche ou bleue devant l'hôtel de ville de Lyon ont faim à la mi-journée d'être mortes pour dénoncer la saturation des urgences, des conditions de travail incompatibles avec la sécurité des patients et ingérables pour le personnel hospitalier. Fin de citation. Et puis le document a fait l'effet d'une bombe à l'Opéra de Paris. Un sondage interne étale au grand jour les frustrations des danseurs de l'une des plus prestigieuses compagnies mondiales, s'en prenant de manière inédite à sa directrice. Plus de 2 ans après le brusque départ de Benjamin Millepied, cette nouvelle secousse a pour origine un document inédit de 200 pages qui détaille les griefs à l'encontre de sa remplaçante Aurélie Dupont, ex-étoile de l'Opéra.
Merci. Les prochaines infos sur Radio Bonheur, c'est tout à l'heure à minuit.
Radio Bonheur, la radio des agriculteurs,
la radio des facteurs,
la radio des coiffeurs,
la radio des pêcheurs.
Vos activités sur Radio Bonheur avec Costa Menuiserie, zone des longs rayages à Plérin. Vos activités sur Radio Bonheur.
Le club de l'amitié de Marouet organise un concours de boules interclub vendredi 20 avril à Marouet à 13h30 au boulodrome de Marouet. Tirage au chapeau, prix de l'engagement 5 euros par personne, prix coupé et lot à chaque participant, goûté à la fin du concours. Renseignements et inscriptions au 02 80.